Chapitre 6. Ainsi commença l'année 1791. Je mis mon frère Étienne en pension à Lutzelbourg, chez une vieille cardeuse de matelas, Gertrude Arnold, moyennant 12 francs par mois. Il put suivre alors l'école de M. Christophe, et cet enfant n'a jamais cessé depuis de nous donner la plus grande satisfaction. Maître Jean, durant ce mois de janvier, m'expliqua ce qu'il voulait. Je ne devais pas seulement surveiller la forge, mais encore inscrire dans son livre tout ce qui s'achetait et se vendait à l'auberge, parce que sa femme ne savait pas écrire. Je devais régler ses comptes, de sorte qu'en rentrant de la ferme, il n'eût qu'à jeter un coup d'œil en bas de la page pour reconnaître l'état de ses affaires. Ma mère, bien étonnée de ce qu'on avait osé lui résister dans notre baraque, semblait toute pensive, et de temps en temps le père s'écriait « Ah, maintenant je suis content! Tout va bien! Pourvu que Mathurine trouve à se placer quelque part, chez d'honnêtes gens, nous n'aurons plus rien à souhaiter !» J'y songeais aussi, mais en ce temps de trouble, les gens riches n'aimaient pas à se charger de nouveaux domestiques. Et puis, je me sentais plus fier qu'autrefois. Je n'aurais pas été content de voir ma sœur servante chez des gens de la ville. Ces choses sont naturelles, chacun les comprendra. Nous étions donc heureux. Malheureusement, l'orage grandissait de jour en jour. Ces deux mois de janvier et de février sont le temps de la plus grande émigration. Alors, le livre rouge courait toute la France. On y voyait les pensions et gratifications scandaleuses qu'avaient reçues de nobles familles et qui s'élevaient jusqu'à 50 millions par an, lorsque les malheureux, accablés d'impôts, mouraient de faim. Le mépris de la nation forçait ces nobles à partir en foule. Toutes les routes étaient couvertes de leurs voitures. Ils ne trouvaient pas assez de chevaux au relais. On entendait jour et nuit le flic-flac de leurs postillons. Quand les portes de la place étaient fermées après 11 heures, ils faisaient le tour des remparts sans vouloir attendre l'arrivée du portier consigne, le père Lebrun, pour leur ouvrir. Cela devenait même si fort que les patriotes commençaient à s'en inquiéter. L'Assemblée nationale débattait la loi sur les passeports. Mirabeau criait que c'était une abomination de vouloir empêcher les gens d'aller et de venir. Mais les gardes citoyennes remplissaient tout de même leur service. On interrogeait les émigrants, on leur demandait ce qu'ils allaient faire à Koblenz, à Constance, à Turin. Quand ils ne voulaient pas répondre, on parlait de conduire les dames au violon de la ville en attendant les ordres du département. C'est alors qu'il fallait voir la mine hautaine de ces monseigneurs changer. C'est alors qu'il fallait les voir devenir doux, serrer la main des patriotes en les appelant « amis » et boire du petit vin au bouchon voisin à la santé de la nation. On riait de ces comédies et le garde national lâchait la bride des chevaux en criant « Bon voyage, messieurs !» Que voulez-vous ? Les Français ont toujours aimé la plaisanterie. C'est dans le fond de leur nature. Cependant, les troubles à propos du serment civique s'étendaient. 12 à 1500 rebelles en Alsace s'étaient associés sous le nom de citoyens catholiques, apostoliques et romains pour s'opposer à l'exécution du décret. Ils se réunissaient en criant « Vive le comte d'Artois !» L'Assemblée nationale envoya des commissaires pour s'informer de ce que ces gens voulaient. Mais ils n'en devinrent que plus insolents et se mirent à crier « Les commissaires, à la lanterne !» Des chevaliers de Saint-Louis et même d'anciens conseillers au Parlement étaient à leur tête. Quand on vit cela, les patriotes de Colmar et de Strasbourg prirent de bons gourdins et dispersèrent les citoyens apostoliques. Toutes les gazettes royalistes nous annonçaient l'invasion. À Falsbourg, les hussards de Saxe, ayant traversé la ville pour se rendre à Sarreguemines, comme on s'en doutait déjà, qu'ils passeraient bientôt à l'ennemi, les soldats du régiment de la Fer en prirent quelques-uns par la bride et voulurent leur faire crier « Vive la nation !» Mais alors, tous en masse, tirèrent le sabre et leur passèrent sur le ventre en filant par la porte de France. L'hôpital était rempli de soldats blessés. C'était une infamie, car ceux de la Fer avaient été surpris sans armes. Cela n'empêcha pas Louis XVI d'approuver les hussards de Saxe qui devait quelque temps après aller à sa rencontre et protéger son passage aux Autrichiens. Le régiment de la Fère fut blâmé sévèrement. On nous envoya pour le remplacer Royal Liégeois, qui s'était distingué 6 mois avant sous les ordres de M. de Bouillé. Qu'on se figure l'indignation des patriotes. Tout le temps que Royal Liégeois resta dans le pays, pas un honnête homme en ville et dans les environs ne répondit au salut de ses officiers. Il fallut alors perdre notre bon sergent Quéru et tous nos instructeurs de la garde citoyenne. On les reconduisit encore jusqu'à Sarrebourg, où l'on fraternisa avant de se séparer. C'est au milieu de ces agitations qu'on apprit que les tantes du roi venaient de s'échapper avec 12 millions en or dans leur voiture et 3 millions de dettes qu'elles laissaient sans honte à notre charge. Ensuite, qu'elles étaient arrêtées à Arnay-le-Duc en Bourgogne et que, dans leur épouvante, elles avaient écrit à l'Assemblée nationale « Nous ne voulons être, et nous ne sommes, d'après la loi, que des citoyennes. Nous sommes avec respect vos très humbles et très obéissantes servantes. » Cette lettre, qui vous excitait à rire, montrait pourtant, de leur part, un grand bon sens, car elle ne disait que la simple vérité. C'est pourquoi l'Assemblée nationale leur donna la permission de s'en aller où bon leur semblerait. Malgré la colère de Maître Jean, qui disait qu'on aurait dû les ramener en triomphe à Paris, j'ai toujours pensé que l'Assemblée nationale avait bien fait, et qu'on aurait même dû laisser les portes de la France ouvertes tout au large, pour engager les autres nobles à sortir, en les prévenant seulement qu'ils ne rentreraient plus jamais. Enfin, à chacun son idée. Je suis sûr que si Louis XVI avait gagné l'Allemagne ou l'Angleterre, il aurait produit autant d'effets là-bas que le comte d'Artois, son frère, ni plus ni moins. Je suis sûr que nos souverains, qui plus tard sont partis, n'auraient pas mieux demandé que de rester chez nous, s'étant aperçu qu'il est plus difficile pour eux de rentrer que de sortir. Mais j'en reviens à mesdames les tantes du roi. Elles s'en allèrent à Rome, et l'on n'entendit plus parler d'elles. Les troubles étaient surtout terribles à Paris. Nous voyons cela dans les gazettes que nous envoyait Chauvel. Le peuple, plein de méfiance, s'attendait à quelques mauvais coups des nobles et des évêques. Camille Desmoulins, Brissot, Fréron, tous ces hommes hardis et fins, nous criaient sans cesse. « Soyez sur vos gardes, ne vous laissez pas surprendre. Vos députés du tiers, en grand nombre, se sont vendus. Léopold et Guillaume ont fait leur paix pour nous envahir. Attention, soyez prêts, ne vous endormez pas. » Une fois, ceux du faubourg Saint-Antoine de Paris voulurent démolir le château de Vincennes, comme ils avaient fait de la Bastille. Lafayette eut 1000 peines à les en détourner. Ce même jour, 500 nobles, avec des poignards, se glissèrent dans le palais du roi par une porte de derrière qui traversait le corps de garde des Suisses. Lorsqu'on les eut découverts, ils dirent que la véritable garde du roi, c'était eux. On les mit dehors, avec des bourrades. Et Louis XVI déclara qu'il ne voulait pas d'autre garde que la garde citoyenne. Mais cela n'empêcha le peuple d'avoir toujours l'œil sur lui par la suite. Le bruit courait qu'il était malade et que son médecin l'engageait à faire un tour du côté de Saint-Cloud. Alors, les dames de la halle le prièrent de rester, ce qui montre bien la simplicité des gens élevés dans l'ignorance. Ces pauvres êtres croyaient que ce serait une grande perte pour la France de laisser partir Louis XVI, comme si les peuples n'étaient pas toujours plus sûrs de trouver des rois que les rois de trouver des peuples. Enfin, le bon sens ne peut pas nous venir d'un coup. Vers la fin de mars, Maître Jean alla surveiller le travail de sa ferme, et je restai seul, à la forge, avec mon nouveau compagnon, Simon Benerotte, un solide gaillard, la barbe rude et les reins massifs. Il pleuvait presque tous les jours, comme il arrive au printemps. Peu de voitures passaient aux baraques, mais nous avions une bonne commande pour l'église de Falsbourg. C'était la grille qu'on voit encore maintenant dans le chœur. Maître Jean, en parlant, m'avait laissé le soin de la poser, et j'allais chaque matin travailler en ville pendant que Benerotte restait à la forge. Le régiment de Royal Liégeois, que personne ne pouvait supporter, reçut en ce temps l'ordre de retourner à Metz. On disait que le général Bouillé voulait avoir sous sa main tous les régiments dévoués à Louis XVI. On a su plus tard pourquoi. Ce régiment partit donc en mars, et celui d'Auvergne, un vrai régiment de patriotes, vint le remplacer. Il s'était distingué dans la guerre d'Amérique et n'avait pas voulu marcher contre Nancy. Elof Collin en fit un grand éloge au club. Il rappela ses batailles, et l'on fraternisa le premier jour avec les sous-officiers et les soldats, comme avec ceux de l'affaire. Mais le régiment d'Auvergne avait aussi de vieux comptes à régler. Ces officiers nobles continuaient à battre leurs hommes, et bientôt on vit chez nous une chose extraordinaire, bien capable de faire réfléchir les aristocrates. Ce jour-là, dans le commencement d'avril, j'étais en train de poser ma grille avec deux journaliers, quand tout à coup, vers 1 heure, le tambour bat du côté de l'hôtel de ville. Je sors étonné, pour voir ce qui se passe, et comme j'arrivais à la porte de l'église, voilà que le régiment d'Auvergne, conduit par ses sous-officiers, débouche sur la place d'armes et se range en carré sous les vieux ormes. Les officiers nobles étaient au café de la Régence, où se trouve aujourd'hui la distillerie de Hoffmann, au coin de la rue de l'ancienne citerne. Ils prenaient tranquillement leur café et jouaient aux cartes. En entendant le tambour, ils sortent pêle-mêle sans prendre le temps de mettre leur tricorne. Le colonel, marquis de Courbon, s'approche en criant et demandant tout indigné ce que cela veut dire. Mais les tambours continuent leur roulement sans se donner la peine de lui répondre. Et 3 vieux sous-officiers sortent des rangs, le fusil sur l'épaule, et se réunissent au milieu du carré. C'étaient de grands gaillards à moustaches grises, le tricorne de travers, la queue pendant au milieu du dos, et qui n'avaient pas l'air tendre. Les gens de la ville étaient aux fenêtres ou sur la place à regarder, ne sachant ce que cela voulait dire. Tout à coup, les tambours cessent de battre. Et l'un de ces vieux, tirant un papier de sa poche, crie « Sergent Ravette, sortez des rangs !» L'autre s'avance, l'arme au bras. « Sergent Ravette, le régiment d'Auvergne vous reconnaît pour son colonel !» Aussitôt, le nouveau colonel pose son fusil contre un arbre et tire son sabre pendant que les tambours battent, que le drapeau se penche et que tout le régiment présente les armes. Je n'ai jamais rien vu de plus terrible. On comprenait que si les officiers nobles faisaient mine de lever la canne, le régiment allait tomber sur eux à coups de crosse et de baïonnette. J'en étais tout saisi. Par bonheur, ils avaient bien vite reconnu que l'affaire était dangereuse et retournèrent dans leur café pendant que la proclamation continuait. Après le colonel, on nomma le lieutenant-colonel, le major, les capitaines, les lieutenants, enfin tous les officiers, et même beaucoup de sous-officiers. Vers 3 heures, tout était fini. Le carré se déployait lorsque les officiers nobles sortirent brusquement pour protester. Mais le nouveau colonel, un petit brun, leur dit d'un ton sec. « Messieurs, vous avez 6 heures pour évacuer la place. » Puis il commanda. « Par file à gauche, gauche. En avant, pas accélérer, marche !» Et les soldats rentrèrent dans leur caserne. Le lendemain, plus un seul des anciens officiers n'était en ville. Voilà ce que j'ai vu. 3 semaines plus tard, le 24 avril, l'Assemblée nationale reçut une lettre du ministre de la Guerre, lui annonçant la révolte d'Auvergne, lequel avait chassé ses officiers, s'était constitué en société particulière et ne reconnaissait plus d'autre autorité que la sienne. J'ai lu cela dans les gazettes du temps, avec beaucoup d'autres mensonges. La vérité, c'est que les soldats d'Auvergne tenaient avec la nation, qu'ils étaient las de l'insolence des officiers nobles et qu'ils ne voulaient plus être commandés par des hommes capables de les trahir sur le champ de bataille. Du reste, malgré la lettre du ministre, beaucoup d'autres régiments firent la même chose. Et si toute notre armée avait suivi l'exemple d'Auvergne, on n'aurait pas vu plus tard des généraux en chef essayer d'entraîner leurs soldats contre l'Assemblée des représentants du peuple et des états-majors tout entiers passer à l'ennemi. Quelques jours après, un dimanche, Maître Jean revint. Il vit tout en ordre et fut content. Il apportait un paquet de gazettes de l'hôtel du Grand Cerf à Lixheim et nous apprîmes alors que Mirabeau venait de mourir, que le roi, la reine, la cour et tout le monde le regrettaient, qu'on le glorifiait et que l'Assemblée nationale avait rendu ce décret. Le nouvel édifice de Sainte-Geneviève sera destiné à recevoir les cendres des grands hommes. Le corps législatif décidera seul à quels hommes cet honneur sera décerné. Honorez Riquetti Mirabeau et jugez digne de cet honneur. » D'après ce que Chevel nous avait écrit sur Mirabeau, ce décret nous étonna. Les mêmes gazettes racontaient que Louis XVI voulait à toute force prendre l'air dans son château de Saint-Cloud, que la garde citoyenne et le peuple s'opposaient à son départ, et qu'il était allé se plaindre à l'Assemblée nationale de ce qu'on n'avait pas confiance en lui. Il avait bien raison, car, en voyant son palais, toujours plein de nobles et de prêtres réfractaires, sans un seul patriote, en lisant ses journaux, toujours à crier contre l'indiscipline des troupes, contre les décrets de l'Assemblée nationale, contre le peuple et les bourgeois, en voyant la masse des mauvais petits livres que ces journaux célébraient, et qu'on allait jusqu'à mettre sous le nom de Camille Desmoulins de Marat et du père Duchesne pour les répandre plus vite et décrier les honnêtes gens, en voyant ces bassesses et ces lâchetés, ces mensonges et ces calomnies, est-ce qu'il n'aurait pas fallu manquer de bon sens et même de cœur pour lui donner sa confiance? Est-ce que les discours de Valentin, des Capucins, des citoyens catholiques, apostoliques et romains, comme ils s'appelaient eux-mêmes, ne suffisaient pas pour ouvrir les yeux des plus aveugles et faire découvrir la trahison qui se préparait? Non. Personne n'avait confiance en lui. Mais ce n'était pas notre faute, c'était la sienne. Pour obtenir la confiance du peuple, il faut agir franchement, loyalement. Il ne faut pas mettre en avant des filous qui vous représentent. Une fois que la tromperie a paru, le mépris arrive au lieu de la confiance, et c'est juste. Maître Jean, ayant trouvé que tout marchait bien aux baraques, s'en retourna le lendemain à sa ferme, et quelques jours après, le pape Pie VI lança son excommunication contre les prêtres et les évêques assermentés. Cela ne leur fit ni chaud ni froid, mais les autres en devinrent plus insolents. Ils soulevèrent l'île de Corse, ils attaquèrent les patriotes dans l'Avignonnais, ils cassèrent les vitres des clubs à Paris. On leur répondit en brûlant la bulle du pape au palais royal, en transportant les cendres de Voltaire à Sainte-Geneviève, en décrétant la fonte des cloches pour faire de la monnaie, en sommant le prince de Condé de rentrer en France sous peine de perdre tous ses droits de français, etc. etc. Mais, bien loin de se calmer, les citoyens catholiques redoublèrent leurs excès. Abri contre Robert, leur hussard de Hainaut arrachait les patriotes, même les femmes, du lit pour les garrotter et les insulter honteusement. La fureur grandissait. L'idée d'être forcé d'en venir aux mains vous indignait d'autant plus que l'année s'annonçait bien. Au mois de mai, tout fleurissait aux baraques. Les arbres, les haies et les bois. Les grands poiriers de Marguerite montaient derrière leur maison comme une boule de neige. On se disait, quel bonheur, si nous pouvions être tranquilles maintenant. Est-ce que ce n'est pas assez malheureux pour les pauvres de souffrir de froid et la faim dans les mauvaises années? Faut-il encore être menacé dans les bonnes années de voir les Autrichiens et les Prussiens venir ravager nos moissons et les traîtres s'entendre avec eux pour nous livrer? Malgré cela, le travail reprenait. Quand un beau matin, la nouvelle arriva que Sa Majesté venait de lever le pied et que tous les gardes nationales de la Champagne et du pays messin couvraient les routes pour tâcher de l'arrêter, que le tocsin sonnait, que les tambours battaient, que les courriers se suivaient à la file et que celui qui parviendrait à mettre la main dessus aurait sa fortune faite. La nouvelle arriva chez nous par trois grands Alsaciens et leurs femmes qui revenaient de Sarrebourg en voiture. Les femmes criaient. Jésus, Marie, Joseph, nous sommes tous perdus. Les hommes, assis devant avec leurs grands tricornes et leurs gilets rouges, tapaient à tour de bras sur leurs chevaux. Je leur criais. Qu'est-ce qui se passe? Et celui qui tenait les rênes me répondit en tournant la tête. Le diable est déchaîné. Il riait, ayant trop bu, mais une femme me cria toute désolée. Le roi s'est sauvé. Quelques instants après, plus de 50 personnes qui revenaient du marché de la ville et s'en retournaient en courant dans leur village pour annoncer la grande nouvelle répétèrent la même chose. Trois ou quatre qui s'arrêtèrent à l'auberge dirent encore que la reine et le dauphin étaient avec le roi. C'est alors que j'eus ma première colère contre cet homme, parce que, malgré tout, j'avais eu confiance dans son serment, à cause de sa grande piété. Simon, Bernerotte, en fut bien étonné, car je frémissais des pieds à la tête, et je lançais mon marteau contre le mur comme un boulet en criant. « Ah, le lâche, il nous a trompés !» Mais ensuite, le calme me revint, et comme un grand nombre d'hommes et de femmes se trouvaient devant les trois pigeons, et se disputaient sur cela, je leur criais que si le roi s'en allait, c'était pour rejoindre nos ennemis à Koblenz, et que les Allemands n'attendaient que lui pour nous envahir. Que Guillaume et Léopold n'avaient pas osé nous attaquer avant son arrivée, de peur d'un accident aux Tuileries. Mais qu'à cette heure, ils n'allaient plus se gêner. Si Maître Jean avait été aux baraques, il aurait bien sûr fait battre le rappel. Mais lui, l'étumier et tous les sous-officiers de la compagnie se trouvaient alors au champ. Je m'en désolais. Aujourd'hui, j'en ris, car bien des milliers d'autres patriotes gardaient la route de Paris à Strasbourg, et ce n'est pas celle-là que Louis XVI devait prendre. Celle de Belgique ou celle de Metz était bien plus courte. Voilà des idées de jeunesse. Dans tous les cas, les gens étaient d'accord que le roi allait rejoindre nos ennemis et que nous ne pouvions plus tarder d'être envahis. C'était tellement dans l'esprit de la nation que l'Assemblée nationale elle-même n'avait pas le moindre doute sur ce point et que le lendemain matin, 25 juin, ce décret se voyait affiché partout à la porte des églises et des mairies et même à l'intérieur des auberges contre un mur pour que tous les patriotes fussent prêts au rappel. C'est Maître Jean lui-même qui vint de Piekeholz l'afficher dans la grande salle des Trois Pigeons en criant contre le roi d'une manière terrible et le traitant de cafard. 21 juin 1792. L'Assemblée nationale décrète, article 1er, la garde nationale de tout le royaume sera mise en activité. Article 2, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, du Jura, du Haut et du Bas-Rhin, et tous les départements situés sur les frontières d'Allemagne fourniront un nombre d'hommes aussi considérable que leur situation le permettra. Article 3. Les autres départements fourniront chacun de 2 à 3 000 hommes. Article 4. En conséquence, tout citoyen qui voudra porter les armes se fera inscrire dans sa municipalité. Article 5. Les gardes nationaux enregistrés se formeront en bataillons de 10 compagnies chacun. Chaque compagnie sera de 50 hommes. Article 6. Les compagnies seront commandées par un sous-lieutenant, un lieutenant et un capitaine. Article 7. Les bataillons seront commandés par 2 lieutenants-colonels et un colonel. Article 8. Les compagnies nommeront leurs officiers et les bataillons leur état-major. Article 9. Chaque garde nationale recevra 15 sous par jour. Le tambour aura une solde et demie. Le fourrier, 2 soldes. Le sous-lieutenant, 3. Le lieutenant, 4. Le capitaine, 5. Le lieutenant-colonel, 6. Le colonel, 7. Article 10. Les gardes nationaux, à l'instant où leurs services ne seront plus nécessaires, ne recevront plus de soldes et rentreront sans distinction dans leurs anciennes compagnies. Article 11. Il sera fait incessamment un règlement pour ces troupes. Je vous ai copié ce décret parce que c'est le premier modèle des levées en masse. C'est de ce décret que sont sortis tous les grands généraux de la République, tous ceux qui, pendant des années, ont battu les généraux de Frédéric, de François, de Paul, de Guillaume, d'Alexandre, non pas 10 fois, non pas 20 fois, mais un nombre de fois extraordinaire. Et pourtant, c'étaient des fils de paysans. Les autres étaient de la race noble, les descendants de nos fiers conquérants. Et nos républicains étaient de l'humble postérité des vaincus. Comme tout change en ce monde. Ce décret montre aussi quelle confiance l'Assemblée nationale avait dans notre roi, puisque ce n'est pas contre les ennemis qu'elle faisait lever la nation, c'est contre Louis XVI, qui courait se mettre avec eux. Il se croyait bien sûr alors de nous ravoir bientôt dans ses filets. Mais, grâce à Dieu, les choses devaient tourner autrement qu'il ne pensait. Et c'est ici qu'on voit bien que l'être suprême était avec le peuple et les prêtres constitutionnels, et non avec la cour et les évêques. C'est ici qu'il faut admirer la Providence, puisque malgré toutes les ruses, toutes les précautions, malgré la trahison de Bouillé et de tant d'autres malheureux qui passèrent à l'ennemi quand leur coup fut manqué, le fils d'un maître de poste, le patriote Drouet, suffit pour renverser ses projets abominables et forcer le roi de retourner à Paris. Il fut arrêté par le conseil municipal de Varennes, un petit village à 9 lieues de la frontière, et les hussards que Bouillet avait envoyés à sa rencontre pour escorter sa voiture furent empêchés par une simple charrette de meubles que Drouet et ses amis venaient de renverser sur un petit pont. Oui, la volonté de Dieu se montre dans ces choses que j'ai lues avec attendrissement dans les gazettes de ce temps-là. Maître Jean m'avait fait monter sur une table dans la grande salle, tellement pleine de monde qu'on ne pouvait plus respirer. Les fenêtres étaient ouvertes. L'allée et la rue en face, jusqu'à la forge, étaient remplies de têtes penchées les unes sur les autres, et je lisais ces nouvelles au milieu des trépignements, des étonnements et des cris de « Vive la nation !» qui se prolongeaient dans tout le village. Mais ce qui surtout excitait l'indignation, c'était la lettre que le général Bouillet avait eu l'insolence d'écrire à l'Assemblée nationale, au moment où le roi venait de rentrer à Paris sans aucun mal, et dans laquelle ce malheureux essayait de nous faire peur en nous menaçant de l'invasion. Écoutez, je ne veux pas la copier tout entière, mais seulement les endroits où la trahison se montre dans tout son jour. Luxembourg, 26 juin 1761. Le roi vient de faire un effort pour briser ses fers. Une destinée aveugle à laquelle les empires sont soumis en a décidé autrement. Voilà comme il commence. Qu'est-ce que cela veut dire? Une destinée aveugle à laquelle les empires sont soumis. Cela signifie qu'il n'y a pas de Dieu. Cela montre que ces nobles n'étaient que des païens et qu'ils nous traitaient, nous chrétiens, comme des esclaves, parce qu'ils ne croyaient pas aux paroles du Sauveur. Vous êtes frères, vous êtes égaux, aimez-vous les uns les autres. Mais je ne veux pas m'arrêter sur cela. J'arrive à ces menaces. Après avoir dit que le roi n'était parti que d'après ses conseils pour aller à Montmédy, au milieu de ses fidèles Allemands, déclarer l'Assemblée nationale dissoute et en faire nommer une autre dans son goût pour établir les privilèges de la noblesse, il finit de cette manière. Croyez-moi, tous les princes de l'univers reconnaissent qu'ils sont menacés par le monstre que vous avez enfanté, et bientôt, ils fondront sur notre malheureuse patrie. Je connais nos forces. Toute espèce d'espoir est chimérique, et bientôt votre châtiment servira d'exemple mémorable à la postérité. C'est ainsi que doit vous parler un homme auquel vous avez d'abord inspiré la pitié. Vous répondez des jours du roi et de la reine à tous les rois de l'univers. Si on leur ôte un cheveu de la tête, il ne restera pas pierre sur pierre à Paris. Je connais les chemins. Je guiderai les armées étrangères. Cette lettre n'est que l'avant-coureur du manifeste des souverains de l'Europe. Ils vous avertiront d'une manière plus prononcée de la guerre que vous avez à craindre. Adieu, messieurs. C'était clair, cela. Nous répondions des jours du roi et de la reine au roi de l'univers. Et lui, Bouillet, connaissait nos forces. Il devait conduire l'ennemi chez nous, dans sa patrie, et détruire Paris de fond en comble. Quand je lus cette lettre à mon père le soir, il joignit les mains au-dessus de sa tête en s'écriant « Oh, mon Dieu, est-ce possible qu'il existe de pareils malheureux dans le monde? Si Nicolas, qui connaît aussi les chemins du pays, était capable de conduire les ennemis aux baraques, j'en mourrais de chagrin. » Et je lui répondis « Oui, mon père, oui, mais vous n'êtes pas un noble, vous. Vous n'êtes pas un descendant des conquérants. Vous n'êtes pas un général nommé par le roi. Vous n'avez pas reçu de grosses pensions, des honneurs et du pouvoir. Vous êtes un pauvre paysan. Vous avez toujours souffert. » La patrie ne vous a rien donné, pas un liard. Vous ne lui devez que la lumière du jour, et cela suffit pour vous faire l'aimer. L'idée seule de la trahir vous fait frémir. Mais pour ces nobles-là, il n'existe pas de patrie sans pension et sans honneur. La vraie patrie pour eux, c'est où l'on a des serfs qui travaillent et des rois qui vous comblent de richesses. S'ils étaient forcés, comme nous, de piocher la terre, de forger, de travailler du matin au soir pour entretenir leur roi dans l'opulence, ils ne seraient bientôt plus royalistes. Et ce que je disais à mon père, on le vit aussitôt, que Louis XVI fut rentré dans les Tuileries. Il n'était plus le maître. Il ne pouvait plus combler ces gens de grâce. Des quantités d'officiers désertèrent. On apprit que tous ceux du régiment de colonel général en garnison à Dunkerque avaient passé dans une nuit aux Autrichiens, que ceux de Lille avaient essayé de livrer la place aux ennemis et qu'ils auraient réussi sans le patriotisme des soldats et des habitants. C'était une véritable désolation. On craignait de s'éveiller chaque matin avec Condé, Léopold, Guillaume et 100 000 gueux à sa porte. Toute la France trouvait Louis XVI indigne de régner. Tous disaient qu'il avait trahi son serment et conspiré contre la patrie, qu'il était notre plus dangereux ennemi, puisque les forces qu'il recevait de nous pour nous défendre devaient lui servir à nous livrer. On ne pouvait pas vivre avec cette plaie horrible. Tous les hommes de bon sens le voyaient. Les journaux de Paris nous avertissaient que les patriotes là-bas pensaient comme nous. Mais qui mettre à la place? Les uns soutenaient qu'il fallait le destituer et nommer le dauphin au trône, avec un régent d'après la Constitution. Les autres, qu'il fallait charger quelqu'un de l'exécution des lois. D'autres voulaient la République. Mais au club des Jacobins, Robespierre s'indignait contre cette idée de République. Il disait que le nom ne faisait rien à la chose, qu'on pouvait être heureux et libre avec un monarque, esclave et malheureux avec certaines républiques. Danton voulait seulement la destitution de Louis XVI, assistée d'un conseil d'interdiction comme les imbéciles. Pétion pensait comme Robespierre, mais Brissot, Condorcet et le duc d'Orléans penchaient pour la République. Je crois pourtant que si dans ce temps quelqu'un avait eu le moyen de faire nommer le duc d'Orléans à la place du roi, malgré ses idées de république, il se serait sacrifié pour la patrie. Seulement, il aurait fallu lui montrer qu'il serait le plus fort, car un homme aussi prudent voyait bien le danger de remplir cette place avec des Marats, des Camille Desmoulins et des Frérons sur le dos. Personne n'y pensa. L'expérience des révolutions manquait encore aux gens, et l'on croyait que c'était grand-chose de faire des rois, des républiques ou des empires. Depuis, on a vu que le plus difficile est de les conserver. Ces disputes durèrent environ 3 semaines. L'Assemblée nationale ne décidait rien. Un grand nombre de ses membres, les évêques et les nobles, qu'on appelait le côté droit, avaient protesté contre les outrages faits au monarque et à son auguste famille, en déclarant qu'ils continueraient d'assister aux séances de l'Assemblée, mais sans prendre aucune part à cette délibération, ni reconnaître la légalité de ses décrets. Les autres membres, à ce qu'il paraît, eurent peur. Barnave, Lamette et Duport, qu'on appelait les Feuillants, et qui rendaient visite à leur majesté en secret, parlaient toujours sans rien proposer de clair. Cela traînait, traînait. À la fin, le peuple perdit patience. Il envoya des pétitions pour demander la déchéance du roi. L'Assemblée nationale les mit de côté. Le peuple indigné courut au Champ de Mars en signer une autre plus forte sur l'autel de la patrie. Puis le maire de Paris, M. Bailly, fit retarder en chemin ceux qui devaient la porter à l'Assemblée nationale, de sorte qu'ils arrivèrent au moment où l'Assemblée venait de décider que le roi ne pouvait être jugé parce que sa personne était sacrée. Ce qui revenait à dire qu'il pouvait appeler les Prussiens et les Autrichiens en France et nous livrer à son aise sans courir aucun risque. Le peuple reconnut alors que l'Assemblée nationale, presque tout entière excepté quelques hommes comme l'abbé Grégoire, Chauvel, Robespierre, etc., était gâtée. Sa fureur grandit, les clubs tonnèrent. Danton dit aux cordeliers qu'il fallait un supplément à la Révolution, et les patriotes se donnèrent rendez-vous au Champ de Mars pour dresser une nouvelle pétition qui serait signée par des milliers de Français. L'Assemblée nationale ne voulait pas de cela. Elle comprit qu'une telle pétition lui forcerait la main. Lafayette et Bailly reçurent l'ordre d'appliquer la loi martiale, cette loi terrible qui permet de tirer sur le peuple après 3 sommations de se disperser. Et ils rassemblèrent tout de suite des masses de troupes. Le lendemain, de bonne heure, le peuple qui commençait à se réunir découvrit sous l'autel de la patrie 2 espions cachés là pour dénoncer à la cour ce qui s'était passé. On leur coupa la tête et l'on promena ces têtes au bout de 2 grandes perches dans tout Paris. Alors Lafayette et Bailly, vers 2 heures, arrivèrent au Champ de Mars. Ils appliquèrent la loi martiale, les uns disent après avoir crié, les autres sans avoir crié, mais cela revient au même. Beaucoup de malheureux, sans armes, des femmes, des vieillards, des enfants furent tués. La noblesse, les évêques, la cour et les émigrés durent être contents. C'est par l'ordre de l'Assemblée nationale qu'on venait de tirer sur le peuple pour la première fois. La guerre entre les bourgeois et le peuple, quel malheur! Il ne pouvait pas en arriver de plus grand, puisque cette guerre dure encore et que nous lui devons le gouvernement militaire et le despotisme. Camille Desmoulins, Danton, Fréron étaient poursuivis par ordre de Bailly et de Lafayette. Ils s'échappèrent, mais ils revinrent. Et Marat aussi revint, et les parents de ceux qu'on avait tués revinrent. Ah, la guerre civile, la guerre entre les hommes de la même famille, voilà ce que nous avait d'abord attiré la fuite de Louis XVI. Le reste devait venir plus tard. Cette Assemblée nationale, après avoir fait de si grandes choses, rendu des lois si justes, proclamé les droits de l'homme et du citoyen et conservé sa grandeur au milieu des plus terribles épreuves, en arrivait là pour une idée misérable. L'idée du droit divin. Contraire au bon sens, à la justice, à toute la constitution qu'elle venait de faire. Quand on songe à de pareilles choses, il faut reconnaître l'infirmité de l'esprit des hommes, et surtout le danger des grosses listes civiles. Heureusement, cette assemblée gâtée, fatiguée et vendue ne devait plus durer longtemps. La constitution était presque finie, les nouvelles élections approchaient.